Voilà, donc on va commencer le cours. On est aujourd'hui le 20 janvier et plus précisément le 24 Tevet. Comme vous avez remarqué, on n'a pas mis les Tania sur la table. Aujourd'hui, on va faire un cours très différent de tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Et dans la forme, dans le style, le cours sera très différent, mais il est nécessaire aussi. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est le 24 Tevet, c'est-à-dire le jour de la Hiloula du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, fondateur de la Chassidut Chabad, premier des sept rabbis de Chabad, des sept générations donc de la Chassidut Chabad jusqu'au dernier rabbi, le rabbi actuel. Et donc lui-même était l'élève du Magid de Mezritch. Quel est le portable qui déjà nous monte à la tête? Il était donc l'élève du Magid de Mezritch et la troisième génération après le Baal Shem Tov, puisque le Baal Shem Tov, qui est le fondateur de la Chassidut, a eu donc un élève, enfin il a eu de nombreux élèves, mais l'un de ses élèves était le Magid de Mezritch, qui était d'une certaine manière l'héritier du Baal Shem Tov. C'est lui qui a dirigé la Chassidut après la disparition du Baal Shem Tov. Et cet élève lui-même, le Magid de Mezritch, a transmis le flambeau de la Chassidut à l'un de ses plus grands élèves, qui était le Baal HaTanya, celui dont on parle aujourd'hui. Et le Baal HaTanya était donc ce qu'on appelle le troisième Nassi, le troisième dirigeant de la Chassidut. Et à part le fait qu'il a dirigé l'ensemble des Chassidim à son époque, il a aussi fondé sa propre Chassidut, qui est jusqu'à aujourd'hui la Chassidut Chabad, appelée aussi Lubavitch. Et donc on va parler, comme c'est un devoir de le faire le jour de la Hiloula, de parler un petit peu, afin de capter le message de ce grand personnage, de parler un petit peu de lui, et en se rappelant ce qui est révélé entre autres par le Zohar, que c'est la raison pour laquelle on appelle le jour de leur disparition au grand Israël Hiloula. Vous savez que le mot Hiloula veut dire en araméen « mariage ». Alors quel drôle de nom pour fêter d'une certaine manière, enfin célébrer, le jour de la disparition d'un grand. Et pourquoi on appelle ça un mariage? Alors il y a deux raisons au moins qui sont données, puisque je dis c'est encore l'introduction, c'est pas encore vraiment le cours. Première raison, c'est parce que pour les grands justes d'Israël, lorsqu'ils quittent le corps, à ce moment-là, ils rejoignent véritablement leur source qui est Dieu, qui est Hachem. Ils se fondent, ils se collent à la source de toute vie, comme un homme et une femme qui se retrouvent après une grande séparation. Et donc c'est la joie des retrouvailles, la joie du mariage, la joie de l'union entre le Créateur et l'une de ses plus parfaites créatures qui est le juste. C'est pour ça qu'on appelle cette rencontre mariage. Et à un autre niveau, qui est un petit peu le complément de la première notion, c'est parce que le jour de la Hiloula d'un grand se dévoile dans le monde des lumières inimaginables, qui sont, on pourrait dire, les lumières que ce grand a construit tout au long de son existence, et d'ailleurs qu'il continue à construire là où il se trouve maintenant, car la vie d'un juste ne s'arrête pas. Comme nos maîtres le disent, Vayilchum il chayil el chayil, talmidei chachamim en laem menucha lo baolam hazeh velo baolam haba, shenemar vayilchum il chayil el chayil. Les grands n'ont pas de repos ni dans ce monde ni dans l'autre, ils continuent à aller de combat en combat, d'étape en étape, et là où ils sont, de la manière où ils sont aujourd'hui, ils continuent à agir pour préparer le monde à la délivrance finale. Donc plus particulièrement le jour de la Hiloula, c'est Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar qui le révèle, se dévoile dans le monde des lumières extraordinaires qui sont issus de tout le travail de ce juste-là. Et le fait de parler du juste le jour de sa Hiloula fait qu'on crée des réceptacles qui nous permettent d'attirer un petit peu de sa lumière. Alors, vous allez voir que le sujet qu'on a choisi aujourd'hui est ô combien proche de nous, juifs d'origine française. Et je commence tout de suite. Donc, le Baal HaTanya est décédé le Kaf Dalet Tevet en plein hiver russe, dans des conditions entre parenthèses assez tragiques. Puisqu'il était en chemin, il était en fuite, il fuyait tout simplement Napoléon Bonaparte. Je sais que certaines d'entre vous ont déjà plus ou moins écouté cette histoire, mais c'est pas grave, puisque moi je me la répète chaque année, donc si je ne m'embête pas, il n'y a pas de raison que vous vous embêtiez. Surtout que, vous savez très bien, je ne répète jamais la même chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On était en pleine guerre napoléonienne. Napoléon avait donc entamé la campagne de Russie. il avait décidé d'apporter, on pourrait dire, la Révolution française et toute l'idéologie qui est derrière, c'est-à-dire donc la liberté des minorités, la liberté des cultes, Bekitsour, liberté, égalité, fraternité. C'était encore une époque où on y croyait plus ou moins encore. Et donc c'était la raison officielle pour laquelle il avait déclaré la guerre à la Russie, qui à cette époque-là représentait le tsar, la dictature, l'oppression, et particulièrement l'oppression des minorités, dont la plus minorité de toutes les minorités était bien sûr la minorité juive. Et donc il avait clairement annoncé son programme, que partout où je passe, je libère les minorités, liberté de culte et tout le reste, et en particulier donc les juifs seront libérés de l'oppression tsariste. Et vous savez que les juifs ont toujours eu comme habitude en exil, c'est les prophètes, en particulier le prophète Jérémie qui nous l'a demandé, de prier pour le Shlom HaMalchut, de prier pour la paix du pays dans lequel on est en exil, parce que comme le dit le prophète Jérémie, de la paix des nations vous aurez votre propre paix. Parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas d'argent dans les caisses, où on va les trouver? Chez les juifs. Et quand, etc. Donc les juifs n'avaient aucun intérêt à ce qu'il y ait des problèmes dans la nation dans laquelle ils se trouvaient, parce que c'était toujours sur eux que ça tombait. Il y a la peste au Moyen-Âge chez les juifs qu'on tue parce qu'on les soupçonne d'empoisonner les puits, etc., etc. Donc le prophète avait déjà dit qu'il fallait demander à Hachem de protéger la nation, de manière à ce que les juifs puissent évoluer sans trop de pertes et fracas. Et donc quand cette guerre terrible a éclaté, tous les dirigeants spirituels d'Israël se sont posés la question, pour qui on prie? Est-ce qu'on prie vraisemblablement pour le tsar, puisque on se trouve en Russie, ou on va prier pour Napoléon? Quels étaient les deux pendants du doute? C'est que, bon, on est des juifs sous domination russe, mais d'un autre côté, Napoléon a déjà prouvé que partout où il passe, il libère les minorités, et que c'est clair que sous le drapeau de liberté, égalité, fraternité, on risque de pouvoir relever notre tête et souffler un petit peu de ces siècles d'oppression, comme on le sait à l'époque du tsar, combien les juifs étaient opprimés, et bien après encore, et plus peut-être à l'époque de Staline et le reste. En tous les cas, la grande majorité des dirigeants spirituels des juifs de Russie et de ces pays-là ont dit qu'il fallait prier, d'une manière bien sûr secrète, mais qu'il fallait prier pour la victoire de Napoléon, parce que de la victoire de Napoléon dépendait la liberté d'Israël. Et il y a eu à ce moment-là un maître qui s'est opposé farouchement à cette prière-là et qui a dit qu'au contraire il fallait prier pour la victoire du tsar. C'était le Balatania. Le Balatania a dit que non, il faut prier pour la victoire du tsar et non pour la victoire de Napoléon. Alors bien sûr, tous ses contemporains, qui étaient la majorité écrasante, ont demandé pourquoi. Et il a expliqué parce que Napoléon libérera les corps mais brisera l'âme. Le tsar brise le corps mais ne peut briser l'âme. L'explication bien connue, qui n'est pas si évidente que ça, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à comprendre, que le tsar, lui, ce qu'il oppresse, c'est le corps juif, mais au contraire, par cette oppression du corps juif, se libère, on pourrait dire, l'âme juive, car on sait que quand un homme est opprimé, oppressé, pas nécessairement uniquement les juifs, l'oppression peut toujours provoquer, on pourrait dire, un réveil moral et spirituel. Et en particulier, on connaît la nature profonde du juif. Le juif, lorsqu'il est opprimé, lorsqu'il est en danger, ce qu'il a de plus profond en lui se réveille et son âme juive reprend le dessus. Donc au moins, on doit au tsar que ses souffrances font qu'on est fort sur le plan spirituel. Et c'est vrai que le judaïsme russe et tout le judaïsme de ces régions-là, n'oublions pas que la Chassidut est née dans le pays le plus antisémite de l'histoire humaine, à part peut-être les nazis. Ceux qui, comme le dit le proverbe yiddish, étaient antisémites avant même la naissance de Avraham Avinu. Qui c'est? Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, Polonais, tous ces peuples-là. Et donc, n'oublions pas que les Ukrainiens, c'est eux que les Allemands ont trouvés pour être les exécutants dans les camps de concentration. Et donc, c'est quand même en Ukraine qu'est née toute la Chassidut. Et c'est là qu'elle s'est développée. Ce qui prouve bien que d'une certaine manière, la thèse du Balatania, qui voit dans la brisure du corps le renforcement de l'âme, malheureusement, en exil, mais c'est comme ça que ça fonctionne, n'était pas si fausse que ça. Sur ça, il n'y avait pas de machloket. C'est sûr que ses contemporains voyaient très bien que précisément en Ukraine, plus que partout ailleurs, l'âme juive brille plus que partout ailleurs. Mais là où les contemporains n'étaient pas d'accord, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu ce que le Baal HaTanya voyait, c'est que derrière, en vérité, la révolution française, derrière cette lutte pour la liberté, l'égalité, la fraternité, se cachait en vérité une volonté de proclamer la mort de Dieu. Ça veut dire de fonder les bases de la civilisation occidentale, civilisation laïque, athée, qui refuse Dieu, du moins sur terre. Une civilisation qui va peut-être sceller plus fort que jamais cette phrase qui avait été déjà dite dans les évangiles, qui sont d'ailleurs d'une certaine manière les précurseurs à la civilisation occidentale, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et « Mon royaume n'est pas de ce monde » était resté plus ou moins une phrase qui ne voulait pas dire grand-chose, jusqu'à la Révolution française, où la Révolution française a fait, comme on le sait, la séparation entre l'Église et l'État, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et d'une certaine manière, à partir de la Révolution française, on est rentré dans l'ère du monde occidental, où il n'y a plus de place pour Dieu ici-bas. Dieu n'est qu'à la synagogue, Dieu n'est que dans le monde à venir, Dieu n'est que dans le ciel, il n'a plus rien à faire sur terre. Et donc, le Baal HaTanya, c'est ça sa grandeur, avait vu à l'époque où personne ne le voyait encore, parce que tout le monde était encore un petit peu dans l'euphorie de la révolution. La révolution, ça paraît toujours merveilleux à ses débuts. Il avait déjà vu, selon ce que disent nos maîtres, « Ezeu chacham aro et anola », c'est qui le vrai maître, celui qui voit ce qui va se passer. Il avait vu des décennies en avance que derrière cette idéologie libératrice se cachait en vérité une volonté de tuer Dieu, c'est-à-dire de tuer, de nier plutôt ça, enfin proclamer la mort de Dieu, selon d'ailleurs une phrase très célèbre de je ne sais plus quel révolutionnaire, mais en tous les cas de nier sa présence sur terre. Et c'est de ça que le Baal HaTanya a eu peur, et il a dit donc ce risque-là au moins n'est pas chez le tsar. Mais comme lui voyait quelque chose que personne ne voyait, ses contemporains ne se sont pas rangés à son avis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans toutes les synagogues de Russie, on priait, d'accord, en cachette pour la victoire de Napoléon. Et dans toutes les synagogues Chabad de Russie, on priait pour la victoire du tsar. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque Napoléon est rentré en Russie, et qu'il a commencé dans un premier temps à conquérir la Russie comme beaucoup plus tard les Allemands, et puis c'est l'hiver terrible russe qui a finalement freiné l'avance des armées françaises, comme on le sait, Napoléon a eu très vite besoin d'interprètes, de guides, qui savaient parler à la fois le français et le russe. Et c'était une denrée rare en Russie, qui à l'époque savait parler le français et le russe couramment. Et à ce moment-là, les plus proches élèves du Baal HaTanya ont eu enfin la réponse à une question qu'ils gardaient pour eux depuis des années. Le Baal HaTanya avait institué, regardez la grandeur de ce prophète, déjà, je crois, 20 ans auparavant, il avait institué qu'il avait, on pourrait dire, plusieurs yeshivot, et les élèves de la plus grande yeshiva, c'est-à-dire celle qui méritait des cours du Baal HaTanya lui-même, parce que il y avait une yeshiva où le Baal HaTanya enseignait, une autre où c'était un élève du Baal HaTanya, et une autre c'était l'élève de l'élève. Mais Kitsour, selon le niveau des élèves, il y avait un filtre, vu la profondeur et la force des enseignements. Et dans la yeshiva où se trouvaient les élèves qui pouvaient recevoir de lui-même, il avait donc, dans le programme des études, instauré obligatoirement d'apprendre le français. Et des générations entières d'élèves, donc, arrivez dans cette yeshiva et apprenez à parler couramment français. Qui va demander au rabbi pourquoi? Le rabbi a dit, on fait, quand le rabbi parle, tout le monde s'exécute. C'est ça être un chassid, on pose pas de questions. On pose pas de questions, mais on avait une question, pourquoi on doit apprendre le français? Quand Napoléon a fait savoir très très vite, au bout de quelques semaines de combat, qu'il était à la recherche d'interprètes russes qui parlaient couramment le français, mais qui aussi serait mêlé à des secrets de guerre, et donc ça ne pouvait pas être n'importe qui. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Napoléon a entendu, parce que lui avait ses propres espions, que dans toutes les synagogues de Russie et de Navarre, les Juifs priaient pour sa victoire. Il a dit, je ne peux pas trouver de meilleurs alliés qu'eux, et je vais demander aux Juifs de me servir d'interprète. Le problème, c'est que même parmi les Juifs, il n'y en avait que dans un endroit où on parlait couramment le français, c'est ceux qui priaient pour sa défaite. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Balatania? Il a placé ses plus grands élèves dans le QG de Napoléon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, selon la thèse du Balatania, où il fallait absolument que ce soit le tsar qui gagne, eh bien, les élèves, et donc, qui servaient d'interprète à Napoléon, ont été au courant des plus grands secrets de guerre qu'ils transmettaient au Balatania, et le Balatania transmettait au tsar. C'est ce qui a valu, après la victoire du tsar sur Napoléon, que le Balatania reçoive une décoration et a été fait citoyen d'honneur. Et ils sont restés, absolument incroyable, dans la Russie tsariste jusqu'à la révolution bolchevique. Tous les rebbeïms de Chabad avaient un certificat de citoyen d'honneur qui leur permettait de passer là où ils voulaient, de ne pas être inquiétés, de ne pas payer d'impôts, un petit peu le Yosef de l'Égypte. C'était pas sur tous les juifs, ni même sur les chassidés de Chabad, mais au moins sur la famille des rebbeïm, jusqu'à la révolution russe en 1917, où là, évidemment, ils ont perdu ce certificat de citoyen d'honneur, mais pendant donc Balatania, son fils, son gendre, pendant 5 générations, donc 5 sur 7 finalement, les dirigeants de la Chassidut de Chabad ont joui donc de ce certificat de citoyen d'honneur. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Le problème est, c'est que petit à petit, à fur et à mesure que les choses avançaient, Napoléon a commencé à avoir des doutes. Il voyait qu'il préparait dans le plus grand secret des batailles et que quand il arrivait, les Russes l'attendaient. Alors une fois c'est le hasard, deux fois c'est le hasard, mais il a commencé à avoir des doutes. Il y a quelqu'un qui me trahit. Et automatiquement, quelqu'un qui me trahit, sur qui se sont posés ses yeux? Peut-être les interprètes, en plus des juifs, d'accord. À ce moment-là, il a décidé de leur tendre un piège. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Balatania avait déjà vu le piège qui allait être tendu par Napoléon. Et voilà comment, des mois auparavant, il avait préparé ses élèves. Regardez, je passe dans le présent, dans le passé. Il avait demandé aux élèves qu'il allait envoyer comme interprète dans le QG de Napoléon, d'être capable de contrôler complètement leurs émotions, au point que s'ils sont soumis brutalement et sans préparation à une émotion très forte, qu'on ne puisse repérer aucun battement de cœur particulier, comme si on était en train d'être dans son fauteuil, en train d'écouter une belle musique. Et donc il les a soumis à un entraînement de différentes peurs, un petit peu comme des commandos, d'accord? Et il n'a envoyé dans le QG de Pharaon, dans le QG de Napoléon, c'est pareil, que ceux qui avaient donc traversé tous les tests et qui étaient capables de supporter une pression très forte sans montrer le moindre signe de panique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait vu ce qui allait se passer. Un jour où Napoléon avait la preuve certaine qu'il était trahi, il a réuni, vous savez que Napoléon, on le sait aussi dans l'histoire française, était capable de piquer des crises inimaginables, comme un véritable démon. Il les a réunis dans sa tente, d'accord, avec des officiers qui avaient tous la main sur la gâchette, et il les a accusés de tout ce que un homme comme ça peut accuser un sale juif. Et il les a menacés de les couper en morceaux, machin, etc. Seulement, il avait été rusé. Il y avait en même temps des sales juifs, mais il y avait aussi, parce qu'il avait trouvé malgré tout quelques Russes non-juifs qui étaient aussi ses interprètes. Et puis, il a commencé à dire, il y a des traîtres, je vais tous vous couper en morceaux, je violerai vos femmes, je tuerai vos enfants. Il a commencé à les mettre dans une panique inimaginable. Et tout d'un coup, il a préparé son coup. Il s'est approché près d'un juif qu'il soupçonnait. Et il lui a dit, c'est toi le traître. Et tout de suite, il lui a mis la main sur le cœur. Tout de suite. Le cœur battait normalement. Tac, tac, tac. Il avait réussi l'épreuve. Voilà à quoi le Balatania avait préparé ses élèves. Quand il a vu que le cœur ne bougeait pas, Napoléon s'est excusé, d'accord. Il s'est retourné vers ses officiers. Il leur a crié dessus, il a dit, je vous avais dit, c'est impossible que les juifs nous trahissent. Et il s'est calmé. Et donc ça, c'est une partie de l'histoire que vous n'apprendrez jamais, que les Français ne connaissent pas, qu'on n'apprendra jamais, qui sont écrits dans nos livres à nous. Des livres qui datent de l'époque, que les élèves eux-mêmes ont témoigné, et ça a été transmis de génération en génération, on pourrait dire dans la vision juive de l'histoire du monde. C'est absolument incroyable. Et je crois que d'ailleurs que ces écrits-là se trouvent à l'université de Bar-Ilan, là où sont ces écrits-là. En tous les cas, malgré tout, Napoléon, après cette histoire, a continué à avoir des doutes. Il a fait une enquête et il s'est aperçu que finalement, ce n'était pas tous les juifs qui priaient pour sa victoire. Il y avait un grand maître qui priait pour sa défaite, et c'était le Baal HaTanya. Bon, il avait déjà cessé, par erreur, de soupçonner ses interprètes juifs, parce qu'il ne savait pas que c'était des chassidim Chabad, bien sûr, et on ne pas lui dire. Mais, en tous les cas, il a commencé à dire à haute voix, sans se méfier, qu'il sait qu'un rabbin très influent lutte spirituellement contre lui, et il veut absolument savoir où il est, il veut l'attraper, et bien sûr le mettre à mort pour que ça serve de leçon aux juifs. Les interprètes ont entendu ça, immédiatement, d'accord, ils ont prévenu le Baal HaTanya. Le problème, c'est que Napoléon, malgré tout, était un petit peu sur ses gardes, il n'avait pas révélé quel était le jour qu'il avait prévu pour partir avec une petite armée attraper le Baal HaTanya. Il y a eu un es qui s'est produit, le jour où il avait tenu en plus grand secret, il y avait vraiment que véritablement ses fidèles compagnons qui étaient au courant quand et quoi et qu'est-ce, il a eu une phrase qui lui a échappé, un interprète se trouvait là, il a entendu que c'est aujourd'hui, dans une heure, il part. Qu'est-ce qu'il a fait? Vite, il est parti prévenir le Baal HaTanya que Napoléon avait décidé aujourd'hui de venir avec une petite armée pour l'attraper et le tuer. C'est beau l'histoire, non? Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal HaTanya? À ce moment-là, le Baal HaTanya a fait quelque chose d'absolument incompréhensible. Alors que n'importe quelle situation-là n'aurait pas attendu. On est en plein hiver, on n'est pas encore le 24 Tébet, on est quelques semaines avant. Mais on est en plein hiver russe, il fait moins 30, moins 50 dehors, on est au mois de janvier. En Russie, fin décembre, janvier. Et donc, c'est les hivers de l'époque, moins 50. Le Baal HaTanya, au lieu de tout de suite partir pour avoir le temps d'aller dans un endroit en sécurité, d'accord, passe des heures et des heures et des heures à se tenir au milieu de sa maison et à vérifier que chacun de ses élèves, de ses enfants, nettoie de fond en comble la maison, qu'il ne reste même pas un poil de barbe, un cheveu de femme ou un cheveu d'homme, peu importe, un ongle, n'importe quoi, un morceau de papier, d'accord, une poussière. Qu'il ne reste rien dans la maison. Il leur fait faire 10 fois nettoyage de Pessah. Et à chaque fois, il repasse, il met sa main sur le mur, il dit non, il reste de la poussière, c'est pas fini, recommencez. Mais Napoléon est en train d'arriver. Vous nettoyez tout. D'accord. Et au bout d'heures et d'heures de nettoyage, il s'en va. Et quand il s'en va, on apprend que Napoléon n'est qu'à une heure de l'endroit où il habite. Ils sont vont. Pourquoi il a voulu qu'on nettoie la maison, personne ne sait vraiment. Ça fait un quart d'heure ou 20 minutes qu'ils sont en chemin. À ce moment-là, il rentre dans une panique inimaginable et il dit à l'un de ses fils, qui est le Baal HaTanya, il dit « Oh, il va vaille, on a oublié la paire de chaussons. » C'est quoi la paire de chaussons? Il avait reçu de son maître, qui avait reçu du Baal Shem Tov, les chaussons du Baal Shem Tov. Les chaussons donc avec lesquelles le Baal Shem Tov était dans sa maison, dans son Beit HaMidrash, il étudiait la Torah, etc. quand il était avec lui. Ils étaient cachés sous une dalle. À cette époque-là, il n'y avait pas de banque, on cachait tout sous les dalles. Et donc il oblige l'un de ses enfants avec une petite escorte à retourner avec tout le risque que ça. Il leur explique exactement où se trouvent les chaussons. Et voilà qu'ils retournent, ils trouvent les chaussons, ils ont juste le temps de sortir, Napoléon arrive. Napoléon tout de suite demande où est la maison du rabbin, et il arrive tout content, en étant sûr d'avoir attrapé le Baal HaTanya, de le surprendre, il ne sait pas ce qui s'est passé, et très vite il s'aperçoit que le Baal HaTanya a disparu. Mais il contrôle encore sa colère. Il fait un tour dans la maison, et là il rentre dans une colère folle, délirante, et il se met à hurler, il n'a rien laissé, il n'a rien laissé, il n'a rien laissé. Et il cherche partout, il ordonne à ses soldats, trouvez-moi un cheveu, trouvez-moi un poil de barbe, trouvez-moi un morceau de mouchoir, trouvez-moi quelque chose. Il n'a rien laissé. On revient maintenant au Baal HaTanya. On va faire les séries américaines, vous voulez? D'accord? Ok. Le Mashiach reviendra, ou un maître de Torah arrivera à concurrencer un film hollywoodien. Donc je pense qu'on est proche. Voilà. Donc en tous les cas, on revient maintenant au Baal HaTanya. Ils ont eu le temps de s'échapper, mais le Baal HaTanya est épuisé, il fait froid, et il est déjà relativement âgé, il y a quand même toute la tension qui s'y ajoute, et c'est ce qui va d'une certaine manière l'affaiblir, et il va, après quelques jours, décéder en chemin. Il est d'ailleurs enterré aujourd'hui dans un endroit où il n'a jamais vécu, dans un petit village qui est devenu son lieu de... Son dernier lieu, comme on dit, mais qui n'était pas du tout un endroit qui faisait partie des endroits connus et sacrés de la Chassidoute, parce que c'est là-bas qu'il est mort en chemin. Et donc, il a été enterré. En chemin, pratiquement, quelques jours, quelques semaines après cette fuite devant Napoléon. D'une certaine manière, on peut presque dire qu'indirectement, c'est comme Napoléon qui l'a tué. Mais, c'est une manière de parler, bien sûr, que Dieu me pardonne. Mais malgré tout, avant de se voiler, avant de partir, ses enfants lui ont quand même demandé... Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi tu as voulu tout nettoyer? Et à ce moment-là, il a révélé ce que, encore une fois, la France ne sait pas, et ce que personne qui lit les livres d'histoire officiels ne sait. Il a révélé au Blatania, et c'est écrit dans nos livres, « Sachez que Napoléon était l'un des plus grands sorciers qu'il n'y a jamais eu sur Terre. » Il avait des pouvoirs de sorcellerie inimaginables, et c'est le balatanisé, c'est de cette sorcellerie qu'il a puisé son pouvoir incroyable. D'un petit Corse, finalement, qui est arrivé à être l'un des plus grands empereurs de France. Dans l'histoire française, tu dis Napoléon, ça, tu associes ça à quelque chose de géant. Or, au départ, d'où il vient? Je veux dire, d'une province à peine française, qui lutte plus ou moins pour son indépendance, qui est toujours regardée par les Français comme étant la dernière roue de la charrette, les Corses. Et c'est de là que vient Napoléon. Et qui n'avait ni grande taille, ni ci, ni ça, mais qui tsoure un géant dans le corps d'un nain. Et tout ça, le Balatania a révélé que c'était par la force de la sorcellerie, c'était un homme qui manipulait les forces occultes, la magie noire, etc., et que tout son pouvoir, il le tenait de là. Et le Balatania a révélé que s'il avait trouvé, ne serait-ce qu'un cheveu, car on sait que les sorciers ont besoin de quelque chose de la victime pour pouvoir agir, que s'il n'avait trouvé que le moindre objet qui serait rentré en contact avec lui, le Balatania, c'était la fin de la chassidoute, c'était la fin de tout, quoi. À ce moment-là, il aurait fait rentrer par l'intermédiaire de cette magie noire, il aurait fait rentrer quelque chose à l'intérieur du Balatania et de tout ce qui allait suivre, et c'était pas moins, je le dis, si, comme on dit, on aurait mis Paris en bouteille, ça s'est pas passé, mais le projet était pas moins que d'empêcher le peuple juif d'arriver à la délivrance, puisqu'on sait que la Chassidoute a pour vocation, en particulier la Chassidoute Chabad, mais la Chassidoute en général a pour vocation de préparer non seulement Israël, mais le monde à la délivrance finale, comme le Baal Shem Tov lui-même a révélé qu'il avait rencontré par le biais d'une ascension nishmatique lors d'un fameux Rosh Hashanah pendant la Tfila, son âme était montée et était arrivée jusqu'au palais du Mashiach, ce qu'on appelle Echala Mashiach en haut dans les mondes supérieurs, et que le Mashiach lui avait révélé qu'il viendrait, lui, le Mashiach, Shiafutsu Ma'inotecha Chutsa, lorsque tes sources se répandront partout dans le monde, les sources de la chassidoute. Donc c'est clair que tout courant chassidique a pour vocation d'être, d'une certaine manière, celui qui réalise la promesse du Mashiach faite au Baal Shem Tov, que de la Torah du Baal Shem Tov dépend, de sa dispension partout dans le monde, dépend la venue du Mashiach. Et comme on sait, c'est un une des choses que la chassidoute Chabad a pris sur elle, plus que n'importe quel autre aspect des enseignements du Baal Shem Tov. Donc automatiquement, si Napoléon avait réussi à empoisonner d'une certaine manière le Baal HaTanya, c'était donc la fin dès le commencement de la Chassidoute Chabad, et c'était d'une certaine manière un coup terrible porté au projet du Mashiach de voir les sources du Baal Shem Tov se répandre partout et donc de faciliter ou de préparer sa venue. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, d'extraordinaire derrière tout ça, d'autant plus que ça soulève quand même quelques questions. C'est que on voit que finalement le Napoléon, donc d'une certaine manière la France, est liée indirectement à la disparition, en tous les cas terrestre, du Baal HaTanya, ce 24 du mois de Tevet. Et ce n'est pas pour rien, parce que déjà bien avant, un prophète, le prophète Obadia, on sait, c'est même une haftara qu'on lit l'un des Shabbats de l'année au Beit HaKnesset, le prophète Obadia avait déjà parlé de la France, Tsarfat en hébreu, avait déjà parlé de la France comme étant, on pourrait dire, une des clés de la délivrance finale du peuple juif. D'où on le sait? On le sait d'un verset explicite dans le prophète Obadia qui dit que c'est l'avant-dernier verset, le dernier verset de cette prophétie est « Ve'alu moshi'im be'artzion nishpot et aresav » et ceux qui seront libérés monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne de Esaü, la montagne de Esav, qui comme on le sait c'est le mot codé qui fait allusion donc à l'Empire romain et à ses descendants jusqu'à aujourd'hui qui est l'Empire, donc le monde occidental, le monde chrétien sous toutes ses couleurs, que « Ve'alu moshi'im be'artzion nishpot et aresav » lorsque à la fin des temps il y aura le grand jugement entre la montagne de Tzion et la montagne de Esav, à ce moment-là, de ce jugement, jaillira la délivrance vers Aïta, l'Hachem, Hamelucha. Et Dieu retrouvera la royauté. Ça, c'est le dernier verset de Obadia. Obadia, disent nos maîtres, qui était un grand prophète, mais qui était un converti de Édom, un converti de Esav. Il était lui-même né dans une famille esavique, comme des centaines d'autres très 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 grands dans l'histoire juive, comme Onkelos, comme Rabbi Meir, comme quantité d'autres qui étaient soit des convertis de Édom, soit des descendants de convertis de Édom. Et lui-même était un prophète converti de Édom. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que c'est lui qui a été choisi pour, on pourrait dire, pour parler de la fin de Édom, car toute sa prophétie parle de la fin de Édom, comme on le voit entre autres avec le dernier verset, comme pour dire « je vais prendre quelqu'un de chez vous et c'est lui qui parlera de votre fin, en tout cas de votre fin idéologique, celle qui s'oppose à Israël ». Et juste avant ce verset-là, qu'est-ce que dit Obadia? Je le dis directement en français. Il dit que « reviendront les premiers exilés de France et de Sfarad, ils reviendront en terre d'Israël ». Et ils s'installeront dans les villes du Negev. Et après, le verset dit, « Ve'alu moshim be'artzion nishpot et ar esa va'ita l'Hashem ha'melucha. » Alors, tout le monde se pose cette question-là. Qui sont... N'oubliez pas que le prophète Obadia a vécu il y a 2800 ans. D'accord? C'est un des prophètes de la Bible. Et tout le monde se pose la question, le mot Tsarfat et le mot Sfarad dans la bouche du prophète Obadia il y a 2800 ans. On sait aujourd'hui qu'en hébreu moderne, Tsarfat c'est la France et Sfarad c'est l'Espagne. Mais qu'est-ce que ça fait dans la bouche d'un prophète qui a vécu il y a presque 3000 ans? Et en plus, pourquoi dit-il les premiers exilés de France, à Galout, à Chel Hazé Mitzorfat, les exilés, l'exil qui a commencé en France, si on traduit Tsarfat par France. En tout cas, d'abord, prouvons que Tsarfat fait allusion à France. Effectivement, tous les commentaires sur place, depuis Rashi, sous quantité d'autres, etc., Rashi qui a quand même vécu lui aussi il y a 1000 ans, etc., tous les commentaires disent, et déjà les commentaires avant Rashi, ceux qui ont vécu il y a 1200 ans, 1500 ans, qu'on appelle les Géonim, tous les commentaires disent que le prophète Obadia fait allusion au pays qu'on appelle, Rashi dit, Zohamedina Shekorimla Hayom France. C'est le pays qu'on appelle aujourd'hui la France. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. D'accord? Et tous les commentaires vont de pair et ils disent le mot Tsarfat, bien que c'est un mot dans la Bible, et on peut dire par hasard ressemble au pays qu'on connaît aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas par hasard, c'est bien la France. Et sur le mot Sfarad, que nous on traduit aujourd'hui par l'Espagne, les commentaires disent « Zohamdina shekorim lahayom Spania ». D'accord? Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne. Donc voilà que d'après les maîtres les plus anciens, 1000 ans, 1500 ans, etc., on a donc dans la prophétie d'Obadia un verset qui nous dit que juste avant la délivrance finale, reviendront les Juifs de France et d'Espagne. C'est vrai que dans le contexte de l'histoire moderne, qu'est-ce que ça veut dire un Juif qui vient de France et d'Espagne? Ça veut dire simplement dans notre langage à nous, un Juif séfarade. D'accord? Qui sont la majorité écrasante des Juifs français qui reviennent en Eretz Israël ces dernières décennies. Et donc, puisque de France ne vient pratiquement que des Juifs séfarades. Et donc, lorsque les Juifs de France, qui sont en même temps des Juifs sfarades, reviendront. Et où s'installeront-ils? Ils s'installeront dans les villes du Negev. Or, on sait très bien, On l'apprend dans Parchat Lech Lecha sur le mot Hanegba, le Negev, où Rashi explique que dans la Torah, le mot Negev signifie Jérusalem. Negev, c'est Jérusalem, un Rashi explicite dans Parchat Lech Lecha. Et donc, Negev, c'est Jérusalem. Il y a des raisons pourquoi Jérusalem s'appelle Negev. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le Negev aussi. Mais en tous les cas, Negev, la première fois que Rashi explique le mot Negev dans la Torah, Parchat Lech Lecha, il dit Ve'avram halor ve'nasoa hanegva. Avraham allait se diriger vers le Negev, Rashi dit Negba zo Yerushalayim. Il y a une tradition qui explique que le mot Negev dans la Torah fait allusion à Jérusalem. Et donc maintenant, si on revient au prophète Obadiah, de quoi s'agit-il? Lorsque les Juifs de France, Sfarad, reviendront et s'installeront à Jérusalem, Ve'haïtal Hashem Amelucha. Ça sera le signe, donc, juste avant la délivrance du peuple juif. Et donc, il restait une chose à comprendre. Pourquoi dit-on Achel Hazé, l'exil qui a commencé en France? Alors pour ça, on a besoin, entre autres, parmi d'autres, du fameux Flavius Joseph, dans son fameux livre La guerre des Juifs. Vous savez, c'est ce chroniqueur, on ne sait pas trop si c'était un traître ou pas un traître, peu importe, qui a suivi les armées romaines à l'époque de Titus dans la conquête d'Israël. Et donc Flavius écrit que les Romains ont pris, obligés d'une certaine manière à être des mercenaires, donc ceux qui étaient capables de se battre, ceux qui étaient des soldats, etc., donc parmi nous, et ils les ont envoyés, d'accord, où ça? En Gaule. Ils les ont envoyés dans ce pays qui à l'époque était encore peuplé de barbares, et c'est là que, d'une certaine manière, les premiers exilés d'Israël à l'époque où a commencé l'exil d'Édom, c'est là qu'ils ont atterri à la tête ou parmi les armées romaines comme mercenaires pour se battre contre les barbares qui à l'époque étaient dans le pays qu'on appelle la Gaule et qui est devenu après la France. Donc effectivement, l'exil d'Israël à l'époque de Titus a bien commencé en France. Le prophète donc voit exactement les choses telles qu'elles vont se passer des siècles auparavant. Et donc c'est pour ça que le texte dit « Puisque l'exil de Esav va commencer avec la France, c'est quand les Juifs reviendront de France et qu'ils s'installeront à Jérusalem, symbole de la royauté d'Israël perdue. » Et cette perte avait commencé par donc le départ des Juifs en France. Lorsque les Juifs reviendront, à ce moment-là, Vaïta la Shema Melucha. Donc on voit qu'encore une fois, le prophète Obadia avait prévu qu'il y a un lien entre exil, délivrance avec la France. Exactement la même histoire qu'on revoit avec le Baal HaTanya, où le Baal avait peur d'être ensorcelé par donc l'empereur français, et donc ça aurait remis en cause tout le projet de la délivrance. Donc, il y avait potentiellement une volonté donc de la France d'empêcher la délivrance d'Israël. C'est quelque chose d'assez fou. Surtout que le rapport à la France, pour nous, Israël, est un rapport extrêmement, on peut dire, riche en sens, en tension et en grandes et en mauvaises choses. N'oublions pas que parmi les plus grands maîtres du judaïsme de l'exil de Édom, sont sortis des juifs d'origine ou d'origine française ou carrément française. On peut citer les deux plus grands, le maître de la lumière du Niglé et le maître de la lumière du Nistar, le maître de la lumière de la Torah dévoilée, Rashi. Il n'y a pas une phrase de la Torah qui peut se lire sans Rashi. Je parle de la Torah dévoilée, et le maître incontesté de la Torah du Sod, le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh était d'origine française, bien sûr. Il s'appelait Louria, qui vient du mot la Loire, bien sûr. Louria est une hébraïsation du mot la Loire. Comment cette famille s'est appelée Louria Loire? C'est parce que le Hari HaKadosh, qui lui est né à Jérusalem, avait un aïeul qui était médecin et qui avait sauvé le roi de France d'une grave maladie, et en reconnaissance pour cette guérison, le roi de France avait nommé ce juif-là, arrière-arrière-arrière-grand-père du Hari HaKadosh, l'avait nommé duc de la Loire. Il lui avait donné un territoire, Et donc cette famille est devenue une famille installée au bord de la Loire, et de Loire c'est devenu Louria. Et donc on voit que deux lumières inimaginables sont sorties de France, la lumière du Niglé et la lumière du Nistar. C'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Je ne dis pas que c'est le seul pays qui a donné des lumières. Qu'est-ce qu'on va dire avec toute l'Afrique du Nord? Et qu'est-ce qu'on va dire avec l'Irak? Qu'est-ce qu'on va dire avec bien sûr, le monde ashkénaze, Russie, etc., le Baal Shem Tov, le Gand de Vilna? Mais malgré tout, quand on parle de pointure incontournable, ça veut dire on peut étudier la Torah sans étudier les écrits du Gand de Vilna. Mais on ne peut pas étudier la Torah sans Rashi. On peut étudier la Kabbalah sans tel ou tel grand Mekoubal que je ne vous citerai pas. Mais on ne peut pas étudier la Kabbalah sans le Hari HaKadosh. La Kabbalah, c'est le Hari HaKadosh. Ce qui veut dire que les deux statures, les deux géants incontournables sont liés à la France. Rashi et le Hari HaKadosh, chacun dans une partie de la Torah. Donc ça fait quand même réfléchir. Quand on voit que Obadiah avait déjà prévu le rôle de la France, quand on voit que le Baal HaTanya, toute son histoire jusqu'à sa mort, est liée à la France. Quand on voit des choses comme ça, effectivement, on peut se poser les questions. Oh. Alors maintenant, vous pouvez faire à la fin du cours, c'est exactement ça. On pourrait dire que la cerise sur le gâteau a été apportée par le dernier rabbi de Chabad, par une chose, vous avez deviné donc ce que j'allais dire maintenant, par une chose folle en soi. Quand je vais expliquer le pshat et le secret, vous allez voir pourquoi c'est fou, au niveau du pshat et au niveau du sod, que le rabbi, en 1973 ou 74 je crois, insère la Marseillaise comme hymne chassidique que l'on chante, entre autres, le Shabbat, juste avant Baruch Sheamar. Avant Baruch Sheamar, Vaya Olam, il y a un petit psaume qu'on dit le... Non, vous comprenez mieux d'où ça vient. Qu'on dit seulement le Shabbat matin, c'est seulement dans le Noussar Ashkenaz, et je crois que vous n'avez pas cette prière-là. Vous l'avez à un autre moment dans l'année, mais vous ne l'avez pas d'une manière fixe le Shabbat. Donc on chante ce psaume, Haderen ve'emuna alecha ha'olamim. Vous connaissez toute l'histoire d'un petit garçon Chabad qui passe devant un poste de télévision par hasard un 14 juillet, et puis il entend la Marseillaise et il dit à son père, papa, viens voir, ils sont tous Lubavitch. C'est-à-dire que le petit enfant Chabad ne sait pas. Il lui pense que c'est le contraire. Il pense que les Français chantent un chant Lubavitch, mais c'est évident. Tous les enfants Chabad apprennent depuis 30 ans et plus la Marseillaise sur un air complètement différent, et aucun d'entre eux ne sait que, sauf lorsqu'il grandit, que ce chant-là est en plein de la Marseillaise. Ouais. Alors, je dis qu'au niveau du pshat, et même au niveau du sod, c'est une chose absolument incompréhensible pourquoi le rabbi fait ça. Parce que si déjà le rabbi voulait récupérer un hymne, vous savez que tous les grands maîtres de la chassidoute ont récupéré des airs non-juifs et les ont fait rentrer dans les chants chassidiques. C'était une avoda, on pourrait dire, extrêmement importante des grands maîtres de la chassidoute, parce qu'ils expliquaient, comme l'explique le Zohar, que le nigoun, que le chant, en vérité, d'une certaine manière, exprime le chant, le vrai chant, exprime un petit peu l'essence d'une nation. Écoutez la chanson française, le folk américain. Et la chanson est, on pourrait dire, l'âme d'un peuple. C'est clair, tout le monde comprend ça, c'est pas la peine d'insister. Et donc, les grands maîtres de la chassidoute étaient capables de capter, de percevoir quel était le type de chant qui exprimait le plus l'âme d'une nation, et prenaient le chant et le récupéraient et l'inséraient à l'intérieur, on pourrait dire, des chants traditionnels d'Israël, comme, d'une certaine manière, pour récupérer des étincelles perdues et les ramener à leur source. Pourquoi? Parce que notre tradition explique que tous les chants que chantent les nations, je parle des chants, vraiment des chants, d'accord, sont des étincelles des chants des Lévi'im qui étaient chantés au Beth Amikdash, et depuis l'exil d'Israël, de la même manière que physiquement le peuple juif s'est éparpillé au milieu des nations, les chants des Lévi'im se sont éparpillés au milieu des nations, chaque nation a récupéré des étincelles de ces chants, et les ont bien sûr arrangés à leur propre mentalité. Et les maîtres d'Israël étaient capables de récupérer, de voir où se trouvaient ces chants. Et en les réinsérant à l'intérieur du chant traditionnel juif, c'était comme si on faisait le tikkun, la réparation de l'exil. Et donc on préparait la reconstruction du troisième temple. Donc c'était une avoda particulièrement importante. Alors, si le rabbi manifestement a cette intention-là, pourquoi choisit-il l'hymne de la France ? Apparemment, en tant que juif russe à l'origine, on se serait plus attendu à ce qu'il prenne l'hymne russe. Et si ce n'est pas l'hymne de tes origines, alors prends l'hymne de ton arrivée, où tu te trouves aujourd'hui, aux États-Unis. Donc même au niveau du pshat, on ne comprend pas. Ou c'est l'hymne russe, celui de ta naissance, ou c'est l'hymne américain, celui de ta citoyenneté. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec la France ? C'est vrai que tu as passé 8 ans en France, à la Sorbonne, où tu as décroché 7 doctorats. Mais tu as aussi passé quelques années à Berlin, où tu as aussi décroché quelques doctorats. Alors pourquoi pas aussi, etc., etc. Donc, on voit que, bien sûr, personne n'a jamais posé la question au rabbi, vous imaginez. Mais on voit qu'il y a ici une intention particulière. Maintenant, il y a une autre question plus profonde. C'est que, dans cette récupération du chant, le rabbi, je parle un rabbi, se met extrêmement en danger. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, cette étincelle qui est tombée dans l'écorce, elle est d'une certaine manière tenue prisonnière là-bas, et de cette étincelle tenue prisonnière dépend aussi l'exil du peuple juif. De la manière que son chant est en exil, lui aussi est en exil. Ça veut dire que tant que les juifs russes chantent des chants qui au départ étaient des chants lévi'im, il y a ou il y aura des juifs en Russie, en exil, et ainsi de suite pour tous les pays. Donc vous pensez bien que les forces contraires font tout pour empêcher les juifs de récupérer leurs chants, parce que de la récupération de leurs chants, il y a automatiquement la libération des juifs qui s'y trouvent. Si c'est vrai pour n'importe quel chant, vous imaginez pour un hymne national qui exprime plus que tout autre chant l'âme profonde d'un peuple. Vous imaginez ? Alors maintenant, regardez. Pourquoi le rabbi n'a pas pris l'hymne de Russie ou l'hymne des Américains ? Parce que tout simplement, c'est pas parce que l'hymne lui plaisait, il a dit tiens, on va en faire un chant juif. C'est parce que le rabbi voit que dans l'hymne de la Marseillaise se trouve un chant des Lévi'im. Et s'il l'a vu ça sur l'hymne de la France et pas ailleurs, cela signifie que le seul hymne national qui tenait prisonnier un chant des Lévi'im au Beth Amikdash, c'était la France. Et on revient encore une fois sur notre notion de l'importance inimaginable de la France, puisque dans son hymne national se trouve une étincelle d'un chant des Lévi'im entonné au Beth Amikdash. Ça veut dire que les nations ne sont pas arrivées dans leurs hymnes nationaux à récupérer des étincelles des chants des Lévi'im. Le seul pays qui est arrivé, c'est la France. Vous imaginez la force. Et quand le rabbi décide de récupérer la Marseillaise, il part en guerre contre eux, d'une certaine manière, la force spirituelle qui tient en exil Israël là-bas. Et c'est pour ça que, à cette époque-là, et toujours de plus en plus, le rabbi va commencer à faire des allusions de plus en plus claires, jusqu'au jour où, dans les années 90, il va commencer à le dire clairement. Il dit, commencera à dire, aux années 90, donc à peu près 30 ans, 20 ans après qu'il a commencé à récupérer le nigoun, l'hymne, le rabbi commence à dire clairement à ce moment-là, d'accord, que du tikkun de la France, et on pourrait dire de la libération des juifs de France, dépend l'exil, dépend la fin de l'exil. Le rabbi avait commencé à voir dans les années 70 le rôle extrêmement important, on pourrait dire, des forces spirituelles représentées par la France en tant que gardienne en prison, on pourrait dire, des forces libératrices d'Israël. Et donc le rabbi a commencé à attaquer cette clipa en 74, où il récupère l'hymne national de la France, et jusque dans les années 90, où là il dit clairement que maintenant est arrivé le moment de faire le tikkun des juifs de France, et que de leur libération, de leur geoula, dépend la geoula des juifs du monde entier. D'où l'importance inimaginable, fabuleuse, de, on pourrait dire, du retour d'un juif français à la Torah jusqu'au retour d'un juif français en Eretz Israël. Puisque ce retour spirituel et matériel, d'accord, est la consécration, d'une certaine manière, d'un travail commencé par le Rabbi lui-même, où il voit dans la libération de chacun d'entre nous d'origine francophone, d'origine française, le microcosme de la libération de tout Israël. Oui.
Ça explique pourquoi il y a quelques années à Tel Aviv, ils ont organisé, l'ambassade de France a organisé un grand truc le 14 juillet à Tel Aviv. Ça a été un grand truc.
Avec Rabad ?
Non. C'est dans toutes les
routes. Ah, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ils le font aussi à Jérusalem.
Non, mais c'était dans la route, c'était un truc énorme.
C'est peut-être qu'inconsciemment, il y a ce lien-là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que par tout ce que je vous ai expliqué, vous comprenez les hâtes, que se dessine quelque chose qui nous dépasse, qu'il faut finalement arriver à comprendre en cette fin de cours, bien qu'il nous reste très peu de temps. Oui, la question.
Et l'hymne, il a été créé d'une manière consciente en prenant les étincelles, ou c'est inconscient?
Ah, le rabbi, c'était 100% conscient.
Non,
l'hymne est créé d'une manière inconsciente. Ça jaillit d'un artiste qui, lui, ne sait pas qu'il n'est que l'instrument de quelque chose qui le dépasse, évidemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un chant révolutionnaire, comprenez? Alors, c'est, on va dire, porteur de toutes les étincelles de la vraie et seule et unique révolution qu'on attend tous, c'est la révolution qui s'appelle la délivrance, comprenez? Et j'ai fait remarquer d'ailleurs dans un cours, vous allez rire, mais il faudrait suivre tout le cours pour comprendre, ce cours s'appelle le Quetz, la délivrance, il est déjà sur le site. Où j'explique là-bas que c'est extraordinaire, les deux symboles, Marianne et Myriam. À chaque fois, une femme qui porte le même nom, celle qui est le moteur de la première, on pourrait dire, révolution dans l'histoire biblique, la révolution d'Israël, où finalement les opprimés prennent la Bastille et se libèrent. Et leur symbole, c'est Myriam, d'accord? Et chez eux, c'est Mariam. J'explique pas là-bas, mais j'explique maintenant ici aussi un autre symbole extraordinaire, les trois fondements de la Révolution française, les trois fondements de la religion juive. D'accord? Pessah, liberté. Shavuot, égalité. Fraternité, puisque Rashi explique, et comme la Torah le fait remarquer, qu'on a reçu la Torah que par le mérite de la Ardout, qui est Ish Echad, Belev Echad, et Sukkot, bien sûr, la fête de l'égalité, où toutes les différences sociales disparaissent, puisqu'on se retrouve tous dans la même Soukha, et au niveau d'une Soukha, tu ne peux pas deviner qui est ouvrier et qui est millionnaire. Et donc automatiquement, c'est vraiment la fête de l'égalité sociale qui justement se fait un moment qui est celui des récoltes, où apparaissent toutes les différences sociales entre le grand et le petit champ. À ce moment-là, Hachem nous dit, vous êtes maintenant tous dans la Soukha pour montrer que, en vérité, que le juif doit se sentir au-dessus de ces différences sociales et être capable de s'unir à chaque autre juif, quelle que soit sa richesse matérielle. Donc on a effectivement, mamache, les trois fêtes qui sont liberté, fraternité, égalité. Pas forcément dans l'ordre dans lequel c'est dit, mais en tout cas c'est fabuleux. Le nombre de parallélismes qu'on trouve entre la France, et c'est pas seulement fini. Le rabbi va aller beaucoup plus loin. Il explique que le mot Tsarfat est déjà écrit dans la Torah, au sujet de la naissance du premier de ceux qui ont construit la lignée du Mashiach. Comment s'appelait-il? Peretz. Et quand il est né Peretz, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de David Ameller, et donc du Mashiach, quand il est né, on l'a appelé Peretz parce qu'il a été Ufaratzta. Il s'est précipité à la sortie, il a poussé son frère jumeau pour sortir avant lui. Et la sage-femme lui a dit, Ufaratzta Peretz, pourquoi tu fonces comme ça? Et le rabbi dit, Ufaratzta, c'est Tsarfat. Et donc le rabbi, encore une fois, fait un lien entre la France et la délivrance. Et il va beaucoup plus loin que ça, le rabbi dit, mais regardez même la valeur numérique du mot Tsarfat, c'est 770. 770, qui est la gématria, la valeur numérique de Beth Mashiach, la maison du Messie. Donc c'est absolument quelque chose d'inimaginable, tous ces signes qui sont donnés pour lier par l'hymne, par le Balatania, par Napoléon, par la Révolution française, par Myriam, par Marianne, par Tsarfat, par Peretz, par Bet Machia, par 770. Toutes ces choses absolument incroyables qui font de la France un pays pas comme les autres. D'accord ? C'est absolument... Alors maintenant, bien sûr, on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui fait que la France incarne, selon les propos du rabbi, on pourrait dire, le microcosme de tous les peuples ? Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette mentalité française de se prendre pour le centre du monde. Et c'est typiquement français de penser que tout se joue là-bas à Paris. Et jusqu'à aujourd'hui, on vient de le voir maintenant, il y a encore hier et avant-hier, il n'y en a qu'un qui court partout, on lui a rien demandé. Mais de quoi tu te mêles ? Non, pourquoi ? Parce que c'est toujours, cette aspiration française d'être celui qui dirige tout. En vérité, il est dépassé lui-même par un ofi, par une mentalité que même le prophète Obadiah avait déjà prévu il y a fort longtemps, qui est la raison pour laquelle la délivrance dépend de plus ou moins notre bon ou mauvais rapport avec la France. En tous les cas, ceci pour terminer sur la Nekouda suivante, encore quelques minutes. Le pourquoi finalement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le ofi, dans l'essence française qui fait que ce pays est, par toutes les raisons qu'on a expliquées, tellement, tellement lié à la délivrance ou à l'exil d'Israël. Alors, je crois qu'on a donné la réponse d'une certaine manière. Il y a jusqu'à aujourd'hui c'est extrêmement atténué parce que tout simplement, on ne sait plus vraiment où est la France. Il n'y a plus de vrais Français, comme il n'y a plus de vrais Belges, plus de vrais Hollandais. Vous comprenez tout ce que je veux dire ? L'immigration a fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire, la mentalité des peuples est en train de disparaître. Mais dans le tempérament français authentique est un tempérament révolutionnaire. Pour le monde entier, pour le monde occidental, le mot France est associé au mot révolution, ou le mot révolution est associé au mot France. Le rabbi le fait même remarquer dans le fait qu'il dit que le mot Tsarfat, c'est la lettre Ufaratzta. Ça veut dire quoi, Ufaratzta ? Tu vas tout défoncer. Il y a quelque chose d'extrêmement révolutionnaire dans le ofi français. Derer Agav, le rabbi fait aussi une allusion extraordinaire. Le mot Parutz, Proutza, qui veut dire une des femmes dévergondées, n'oublions pas le symbole de Marianne aussi, qui veut dire beaucoup plus que l'image de cette femme-là. Cette pritsout, ce dévergondage, qui est aussi une forme de révolution, de faire tomber, on pourrait dire, tous les tabous. Les premiers qui ont toujours été les premiers à faire tomber les tabous, surtout sur le plan des mœurs, ça a été les Français, c'est clair. Les premières femmes photographiées il y a un siècle et demi avec simplement le bas de robe relevé sur une plage de Normandie, c'était des femmes françaises. À l'époque, c'était uniquement le bas de robe relevé. On ne voyait que cette partie du bas-jambe, mais c'était en France que ils ont osé. Après, ils ont toujours été, etc. Et on sait très bien que la France jusqu'à aujourd'hui représente aussi un symbole de légèreté à ce niveau de pritsout, à ce niveau donc de débauche. Mais c'est toujours le même ofi de ne pas supporter les limites, d'être paroutz. Prenez. Et c'est pour ça que l'un des chants Chabad très connus, c'est Ufaratzta, Ufaratzta. Et c'est un verset. C'est Hachem qui a dit à Yaakov, Ufaratzta. Toi aussi, tu te dévergonderas. Ça veut dire que tu feras tomber toutes les limites. Mais les limites du mal pour dévergonder le bien, pour dévoiler le bien partout. Et donc, comment ? Dans Paris, à Paris aussi, etc. Effectivement, il y a énormément de symboles. C'est Ensof de symboles, si on veut aller jusqu'au bout des symboles, c'est Ensof. En tous les cas, on comprend pourquoi justement c'est le ofi français authentique, qui est une mentalité de ne pas supporter les limites, de vouloir faire tomber les barricades, de faire tomber les limites, de faire tomber la Bastille, plutôt on monte sur les barricades pour faire tomber la barricade qui est le symbole d'une limite, on monte dessus. Il y a un symbole inimaginable, c'est-à-dire que tu montes au-dessus de la limite, tu fais tomber la Bastille, tu fais tomber... La Bastille, c'est Metzarim, c'est l'enfermement, d'accord ? Et donc, ce ofi, ou bien c'est lui qui nous amène en exil, ou bien c'est lui qui nous libère. Il nous amène en exil si on se sert de cette force pour faire tomber les limites morales, la débauche, et il nous libère si on se sert de ses forces pour faire tomber les limites du mal. Ça veut dire de chercher du plus profond de nous-mêmes à faire tomber toutes les limites qui nous éloignent de notre Créateur et qui nous éloignent de la vérité. Et c'est pour ça donc que, d'une certaine manière, toute la tradition juive voit dans la France un symbole de bien ou de mal, parce que comme je l'ai prouvé dans l'histoire, il y a énormément de bien qui est sorti, comme en même temps énormément de mal, Rachi, etc., pour le bien. Et donc, c'est à nous de savoir comment gérer ça. Et pour conclure, je dirais juste que à notre niveau, c'est pareil, c'est que on doit être capable de prendre, comme la récupération d'un hymne national, comme la récupération de la Pritsout en Oufaratsta, de prendre notre Yetzerara, de prendre toutes ces pulsions mauvaises qui nous éloignent de la vérité, de les prendre et de les mettre dans le bien. Ça veut dire qu'on soit aussi des révolutionnaires, mais du bien, qu'on n'ait pas peur de se mettre en danger, qu'on n'ait pas peur de monter sur les barricades, qu'on n'ait pas peur de se marginaliser quand c'est véritablement pour faire le bien et pour le dévoiler. Amen, Vechen Yiratzon.